Bonjour à tous et bienvenue dans le 23e Grand Buffet de Radio Slash. Nous sommes le vendredi 2 juin en direct du CDI pour les 70 ans de mon plaisir. Et nous avons une nouvelle à vous annoncer. Roulement de tambour. À l'occasion du concours Mediatics organisé par le CLEMI et le ministère de l'Éducation nationale, nous avons été élus meilleure radio lycéenne de France.
Bravo. Bravo.
Et pour cette émission placée sous le signe de la fête, nous avons au programme Monsieur le maire de Valence, Nicolas D'Aragon,
bonjour,
pour une interview.
Bonjour.
Bonjour Monsieur D'Aragon, bienvenue.
Merci.
Nous enchaînerons sur un micro-trottoir avec la question « C'est quoi pour toi Valence ?» Puis nous écouterons un texte de Mélanie Xugdor, extrait du dernier numéro du hashtag par toute l'équipe de Radio Slash. Je vous rappelle que le hashtag a été élu meilleur journal lycéen de France l'an passé. Décidément, on assure à mon plaisir. Nous enchaînerons à l'émission avec une interview croisée entre Monsieur Ponce, directeur général de l'ensemble Mon Plaisir, et Monsieur Pillet, président de l'OGEC Mon Plaisir. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour Valentin.
Avec à la suite un deuxième micro-trottoir, c'est quoi pour toi Mon Plaisir ? Et c'est parti, jingle ! Donc, merci monsieur le maire de nous accorder cet entretien.
Merci
donc,
à vous.
Nous savons que vous avez grandi à Valence. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours scolaire ?
Oui, je suis allé à l'école maternelle et élémentaire à Baillé, au Polygone. Je suis allé au lycée Émile Loubet, puis après à Barthélemy de la Fémas parce qu'il y avait la section B, ça s'appelait ES, uniquement là-bas. Puis faculté de droit pendant 3 ans à Valence, un master 1 à Grenoble, un master 2 à Aix-en-Provence, et puis une école de commerce à côté de Paris par la suite.
D'accord. Et quel est votre meilleur souvenir lors de ce cursus ?
J'étais très engagé dans la vie étudiante. Ça veut dire que j'étais président du club des étudiants en droit et en économie que nous avons créé. Je ne dis pas les dates parce que je crois que c'est très loin, tout le monde a oublié. Et puis j'ai eu le bonheur d'être président de l'association valentinoise des étudiants. Donc j'ai vraiment plein de bons souvenirs parce qu'on a beaucoup contribué au développement de la vie étudiante sous l'aspect institutionnel avec la création à l'époque de l'agence de développement universitaire, à l'implantation et au renforcement de l'université et de l'enseignement supérieur en général avec à l'époque l'arrivée de la licence de droit qui arrivait juste l'année où je rentrais en licence de droit. Donc c'était parfait. Et puis à la vie étudiante, à l'animation étudiante, le challenge, le gala et tout ce qui va autour. Tout ce qui fait que finalement être étudiant à Valence, c'est vraiment une dimension différente parce qu'il y a une qualité d'enseignement supérieur à nul autre pareil, parce que très adapté à la taille de ville, donc finalement à taille humaine. On n'a pas des amphis avec 1500 personnes à Valence, ça n'existe pas. On n'a pas de problème de il n'y a pas de crise du logement dans les établissements d'enseignement supérieur. Et puis il y a tout ce qui va autour, compte tenu du fait qu'on est en gros 7000 étudiants à Valence. Quand on organise un challenge et qu'on en a 3 ou 4000 qui se mobilisent, on peut encore faire la fête. Quand on est 60 000 comme à Grenoble, c'est un peu plus compliqué.
Mais c'est de référence au challenge étudiant à Valence. Et quel serait votre pire souvenir ou auriez-vous une anecdote à nous partager de votre période scolaire ?
Oui, je le dis pas souvent, mais j'ai loupé mon bac parce que je m'occupais de trop d'autres choses que...
dans justement les associations
À l'époque, j'étais engagé dans la vie lycéenne aussi. J'étais élu au conseil d'administration un peu partout, voilà. Et en fait, je m'occupais très très peu d'aller en cours déjà pour commencer. Et donc, au moment du bac, c'était un peu compliqué. Je suis allé au rattrapage et sur mon dossier, il y avait quelques petites mentions qui expliquaient que j'étais peu assidu, ce qui à l'époque valait quand même... cher quoi, ça coûtait cher quand on passait en face de l'examinateur, donc voilà, j'ai eu le bonheur de louper mon bac pour 2 points et puis de revenir l'année suivante et de l'avoir avec mention bien, donc
comme ça vous avez pu continuer dans le lycée. Et à cette période, est-ce que vous aviez déjà envisagé de devenir maire un jour?
Alors c'est très original et ça c'est une anecdote vachement sympa, en tout cas que moi j'aime beaucoup raconter. Quand j'étais gamin, mon voisin était le chauffeur de Rodolphe Pesse, le maire de l'époque, et son épouse était enseignante dans l'école élémentaire où j'allais. Et donc il emmenait son épouse dans l'énorme CX, vous n'avez pas connu ces voitures, des Citroën énormes, son épouse à l'école. Et comme j'étais le voisin immédiat, souvent je faisais le voyage à l'arrière, à la place du maire, dans la limousine qui m'emmenait pendant, ça a dû durer 2 ans. Et à l'époque, je me suis dit, ça doit être sympa comme métier, c'est confortable en tout cas. Et bon, petit à petit, je me suis intéressé à un âge où on ne s'intéressait pas à la vie publique, à ce que pouvait être un maire.
D'accord. Voilà. C'est original, effectivement. Et avez-vous eu un mentor ou y a-t-il une personnalité qui vous a inspiré ?
Oui, bien sûr. C'est Patrick Labonne qui m'a fait rentrer en politique en 1995. À l'époque, j'étais président de l'association valentinoise des étudiants et j'avais eu la proposition par les deux candidats, Rodolphe Pesse, le maire sortant, et Patrick Labonne, qui était le candidat. Et bon, j'ai choisi Patrick Labonne parce que ça correspondait plus aux valeurs qui étaient les miennes. Et on a gagné de 86 voix. Alors on a gagné de très peu. Et puis ensuite, j'ai suivi le parcours, j'ai observé comment fonctionnait la vie municipale. Je me suis assez rapidement dit que finalement, c'était pas si compliqué, même si c'était une autre époque. Ça veut dire que la vitesse de la décision, la rapidité dans les échanges, l'exigence de la population, le respect qu'il y a vis-à-vis des élus, c'était vraiment autre chose. Le maire, c'était, on disait tout le temps, le maire, le curé, le directeur de l'école. Bon, c'est déjà un peu évolué à l'époque, mais là, ça s'est vraiment, vraiment distendu. Mais donc, oui, c'est lui qui m'a fait rentrer en politique, qui m'a formé. On est humainement extrêmement différents. Par contre, les automatismes politique, oui, forcément, je les ai appris auprès de lui. Et puis aujourd'hui, pour être clair, je les apprends encore auprès de quelqu'un qui est exceptionnel, qui s'appelle Laurent Vauquier, qui est une personnalité remarquable.
D'accord, très bien. Et à mon plaisir, on a la chance que tous les élèves soient engagés dans des cursus professionnalisants, donc que ce soit les bacs pro, les bacs technologiques. Donc on apprend les bases de notre futur métier. Il n'existe pas vraiment d'école pour devenir maire. Donc comment est-ce que vous avez appréhendé le poste lors de votre premier mandat ?
Alors d'abord, j'avais été élu en 1995 au sein de l'équipe municipale et j'ai été élu municipal sans discontinuer de 1995 à 2014, date à laquelle je suis devenu maire. Ça veut dire que j'ai eu le temps de voir à peu près tous les postes, dans la majorité comme dans l'opposition, en quoi consistait le travail de maire, même si, je le redis, être maire en 2014, c'est pas pareil du tout qu'être maire en 1995. Donc j'avais les fondamentaux. Par ailleurs, ma formation, c'était en droit public. Donc ça veut dire que j'avais beaucoup étudié les institutions, notamment la Constitution française. Et donc... voilà, ce que ça m'a offert à la fois en formation, c'est la formation de base, c'est-à-dire universitaire, c'est la connaissance des institutions. Et l'expérience, c'est la capacité à rapidement m'inscrire dans ce qui est le rôle du maire et à ne surtout pas le dépasser. On a souvent une confusion dans les métiers. Ça peut être un peu étonnant, mais le maire, c'est à la fois le patron de l'administration, mais ça n'est pas le manager de l'administration municipale. Il y a un directeur général des services. Le maire, il détermine la politique de la commune avec son conseil municipal et il veille à ce qu'elle soit appliquée. Et puis ensuite, il a tout l'aspect de proximité avec ses concitoyens, que ce soit entreprise, association, famille... et citoyen. Mais son rôle, c'est absolument pas de manager l'administration municipale. Et ça, c'est un des fondamentaux qui fait que je pense que ça marche pas mal. Voilà. Et donc, j'ai appris grâce à 19 années d'expérience avant de devenir maire quand même.
Ok. Donc maintenant, nous allons passer au micro-trottoir qui était donc avec la question « Pour toi, Valence, c'est quoi ?»
Dis-moi, pour toi, c'est quoi Valence ?
Pour moi, Valence, c'est une ville, la ville où j'ai grandi.
Une ville de diversité et épanouie.
Alors, le shopping, le parc Jouvet et le travail.
Eh ben, c'est une belle ville l'été. Elle est bien décorée.
Valence, c'est une ville que je connais un petit peu, bien agréable, avec des boulevards agréables, des commerçants agréables.
À Valence, c'est une belle ville. En vrai, ça va, elle est jolie. Elle a un bon parc Jouvet, ça c'est très bien, elle a des bons coins un peu détente.
Pour moi, Valence, c'est une ville avec beaucoup de ressources.
Valence, c'est le vent, le soleil, les ravioles et le Suisse.
Parc Jouvet.
Une ville où il se passe beaucoup de choses.
Une ville avec un beau patrimoine.
Valence, pour moi, c'est une ville dynamique, assez jeune, où on peut être entre amis et en famille, et c'est quand même sympa.
Une ville très sympa, avec beaucoup d'animation.
Petite ville où il faut bon vivre.
Les vacances. Valence, donc, c'est une ville qui a énormément changé, qui est devenue dynamique, ensoleillée, avec un plaisir de flâner dans le centre-ville. Voilà.
Pour moi, Valence... c'est ma ville, c'est ma petite ville, quoi. C'est là où il y a ma famille, mes amis, super ville, quoi.
La ville qui est à côté de la mer.
Donc, Après avoir écouté ce micro-trottoir, on va vous poser la question à vous. C'est quoi pour vous, Valence ?
Alors d'abord, à titre personnel, je vais reprendre un peu les propos qui ont été dits à l'instant. C'est ma ville, c'est celle où je suis né, c'est celle où j'ai grandi, où j'ai bénéficié d'une éducation qui m'a transformé, qui m'a permis de rentrer dans l'âge adulte avec une forme de sens des responsabilités. Et puis, c'est une ville dont je ne pense pas pouvoir me déraciner un jour. Voilà. Et je suis issu d'une famille qui a été déracinée. Mes parents ont quitté le Maroc quand il a pris son autonomie. Donc moi je suis enraciné ici. C'est la ville de mes racines et de mon histoire. Et puis après, le regard du maire, c'est une ville avec 65 000 habitants qui gagne de la population. Donc ça imprime une dynamique. C'est une ville dans laquelle l'activité économique est extrêmement forte. On est sous pression de la demande d'installation d'entreprises, ce qui est quand même assez rare, avec un taux de chômage qui est en dessous de 7%, avec une vacance commerciale qui est en dessous de 5%, quand les villes comparables sont à 12% sur la vacance commerciale. Donc c'est une ville qui connaît une très forte dynamique démographique, une très forte dynamique économique, et c'est une ville qui a pour sa taille tous les labels culturels, toutes les disciplines sportives, et qui est localisée idéalement entre mer et montagne, entre Ardèche et Drôme, au cœur de la nature, et c'est la ville-centre de deux départements merveilleux, donc ça veut dire que pour moi, c'est the place to be.
Effectivement. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Remercie pour cette interview, et on passe donc à la suite, au texte Une vie de Mélanie. Excuse-moi.
Assez forte. Je n'aide pas assez. Je blesse, même sans le savoir.
Je critique trop.
Je ne sais pas me taire quand il faut.
Je n'emploie pas les bons mots.
J'aide trop, au point de m'oublier.
Je ne m'investis pas assez.
Je ne rends pas mes devoirs.
Je n'ai pas de bonnes notes.
Je n'obtiens pas mon bac.
On est déçu de moi.
Je ne comble pas les attentes des autres.
Je suis stupide.
Je suis bête.
Je ne suis pas belle.
Je ne suis pas assez aimante.
Je ne trouve personne à aimer.
Je n'écoute pas.
Je ne vois pas tout.
Je n'ai pas confiance en moi.
Non !
Tu peux toujours agir. Tu en as la force. Tu peux en gagner grâce à ton entourage.
Aie confiance en toi. Tu es une personne incroyable qui mérite le meilleur.
Et donc, merci pour ce très beau texte interprété par Domiti, Maëva, Dounia, Clarence,
Marine.
Et...
3 ans qu'on se connaît quand même.
Oui, effectivement, je commence à fatiguer. Et maintenant, place à l'interview croisée. Donc, bonjour messieurs. Donc nous sommes aujourd'hui avec Olivier Ponce, directeur général de l'ensemble Mon Plaisir, et Pierre Pillet, président de l'OGEC Mon Plaisir. Donc, comme l'a précédemment fait Monsieur le maire, accepteriez-vous de vous livrer sur votre cursus scolaire et votre parcours professionnel avant d'arriver à Mon Plaisir, Monsieur Ponce ?
Alors moi j'ai eu un parcours scolaire, j'étais un peu nomade, donc j'ai beaucoup changé d'école. Dans l'Est de la France, en Allemagne, j'étais un fils d'officier. Et puis à Grenoble, j'ai vécu mon primaire à Grenoble, ça j'ai un très bon souvenir. Puis j'ai terminé dans un lycée de la région parisienne, public-privé, donc c'était privé là. Et puis ensuite j'ai fait une prépa, j'ai hésité entre une carrière d'historien et une carrière de marin. Je voulais faire l'école des Chartres ou la marine. Et finalement j'ai fait une prépa pour faire... j'ai passé mon bac que j'ai eu. Et un bac scientifique. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire et puis scientifique. Et puis ensuite, je suis rentré dans une école d'officiers qui est à Brest, qui s'appelle l'école navale. Et puis 3 ans d'école. Puis ensuite, je suis devenu officier. Puis après, j'ai fait une école de pilotage pour piloter les avions. Voilà. Donc j'ai une carrière plutôt scientifique et technique et opérationnelle, parce que la vie de marin, c'est une vie assez opérationnelle. Quoi. C'est voilà. J'ai tout dit, je crois.
Et ben, très bien. Et à votre tour, Monsieur Pillet, Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre cursus scolaire ?
Absolument, pas de problème. Donc, dès l'âge de 13 ans, j'avais envie de faire de l'électronique, sachant que dans les années 60, l'électronique n'était pas celle d'aujourd'hui.
Bien sûr.
Totalement différente. Donc, en fait, j'ai intégré un lycée technique, sachant que, compte tenu des conditions familiales, financières notamment, j'étais plutôt destiné à faire des études courtes. Donc, au lycée technique, j'ai eu mon brevet de technicien dans l'électronique. On m'a poussé un petit peu à poursuivre parce que les résultats étaient plutôt bons. Donc, j'ai eu un BTS électronique. Et puis, on s'est dit avec quelques camarades étudiants, pourquoi ne pas poursuivre ? Sachant que intégrer une école d'ingénieur à l'époque, en ayant un BTS, c'était extrêmement difficile.
Bien sûr.
C'était facile pour les DUT, mais pas tellement pour les BTS. Donc on a tous intégré, on était quatre, on a tous intégré une école d'ingénieurs à Nancy, où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en électronique. Et ensuite, finalement, ma carrière professionnelle a été essentiellement tournée vers le domaine aérospatial, où j'ai assumé des responsabilités d'ingénieur, et puis après chef de département, pour les équipements électroniques de satellites et de lanceurs. Notamment, j'ai travaillé sur Ariane dès les années 74.
D'accord.
Voilà quel est mon cursus.
D'accord. Bien, merci beaucoup. Et à nouveau à vous, Monsieur Pons, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste le poste de directeur général ?
Alors, directeur général, c'est un mot, on pourrait dire directeur tout court, général, parce qu'il y a plusieurs établissements.
C'est un ensemble, du coup.
Voilà, c'est un ensemble, mon plaisir. Il y a deux lycées, un lycée professionnel, un lycée technologique. Il y a un institut et il y a un centre de formation. Donc, ça fait, le tout fait 1500 élèves. Donc, il faut quelqu'un qui coordonne. C'est ça qu'on dit général au sens de coordonner l'association LOGEC. Moi, je suis directeur de général de LOGEC et chef d'établissement pour le rectorat. Et donc, je dois coordonner tout ça qu'on dit général. Alors, directeur, ça veut dire diriger, donner le chemin, être un peu le guide, mais aussi, ça veut dire aussi manager au sens de d'emmener, d'accompagner, de soutenir, de recruter, de donner la direction, donner le cap. Voilà.
Une coordination globale entre les équipes de l'ensemble.
Entre les équipes, l'ensemble. Il y a 50 salariés, 150 profs, plus 30 formateurs, ça fait 250 personnes, plus les 1500 élèves. Mais ça, c'est plutôt les profs qui s'occupent des élèves. Moi, je m'occupe de ceux qui s'occupent d'eux. Je m'occupe de ceux qui s'occupent des élèves. Voilà. Même si parfois, je fais des choses avec les élèves, comme aujourd'hui.
Comme aujourd'hui, effectivement. Et une journée type de directeur général de l'ensemble Mon Plaisir, qu'est-ce que c'est au final ?
Ouais. Alors, comme toutes les journées de directeur, il faut être très souple et il y a des tâches très variées. C'est tout l'intérêt du métier. Donc, il faut consacrer une heure le matin, une heure le soir à lire 150 mails, beaucoup en jeter et en garder les plus essentiels. Comment financer les 7 élèves qui vont aller à Paris le lundi 12. Ça, c'est un mail qui arrive le dimanche soir.
Vous parlez sûrement de la récompense.
Donc ça, il faut répondre vite. Un autre, bon, je peux attendre. En général, j'essaie de répondre dans les 24 heures aux mails.
Le bal de promo, vous répondez très vite.
Voilà. Mais j'essaie, dans les 24 heures, de répondre à tous les mails. Voilà. Et ça, c'est une heure le matin, une heure le soir. Ensuite, c'est 7-8 heures de rendez-vous dans la journée. Donc rendez-vous avec des collaborateurs. Donc j'ai 12 collaborateurs directs que je vois une fois par semaine pour faire le point, ce que j'appelle ça un reporting. Où t'en es ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas moi qui parle, c'est lui qui parle, qui me dit voilà ça, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc il faut arbitrer, il faut décider vite.
C'est avec les directeurs adjoints.
Directeurs adjoints, mais pas que. Les responsables de service, les 4 directeurs adjoints, les responsables de service. Bah, ça fait 12 personnes.
D'accord.
Et puis de temps en temps, j'ai des rendez-vous avec les professeurs, les formateurs, parfois un élève. Voilà. Ensuite, il y a toute la partie travail de dossier. Il faut gérer le budget, il faut gérer les projets architecturaux, il faut gérer les moyens, il faut gérer les mouvements des profs, il faut gérer... Voilà. Et ça, c'est on va dire encore un petit quart. Et puis, il y a toute la partie extérieure. Il faut aller au rectorat, il faut aller à la région, il faut aller... faut rencontrer le président, si j'oubliais. Ça fait partie aussi des... Une fois tous les 15 jours, je rencontre le président et c'est moi qui, cette fois, reporte ce que je fais. Je lui dis, voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses ? Voilà. Et puis, le dernier petit point, et c'est ce qui me donne mon oxygène, c'est que j'ai 4 classes en formation humaine. Donc, régulièrement, je vois des élèves. Et ça me motive parce que ça me redonne le sens de mon travail.
Oui, tout à fait.
Parfois, j'en reçois aussi individuellement, mais voilà.
D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Et Qu'est-ce que c'est l'OGEC au final?
Alors l'OGEC, en fait, est quand même relativement dans l'ombre dans les établissements d'enseignement catholique. L'OGEC, c'est Organisme de gestion de l'enseignement catholique. C'est une association loi 1901 qui, dans le respect des statuts de l'enseignement catholique, a la responsabilité de la gestion économique, financière et sociale. La responsabilité, ça veut dire que finalement, ce n'est pas nous qui œuvrons, puisque on a à déléguer un certain nombre d'actions auprès, bien sûr, du directeur général, qui également délègue à d'autres personnes. Mais par contre, la responsabilité, on l'a entièrement. Et je me plais à dire que, finalement, la mission principale de l'OGEC, c'est de mettre à disposition, en responsabilité, mettre à disposition l'ensemble des moyens financiers, matériels et humains pour que la pédagogie fonctionne. Aujourd'hui, au niveau de mon plaisir, l'OGEC est gestionnaire, l'OGEC est employeur de l'ensemble du personnel administratif et de service et également de la direction, et l'OGEC est également propriétaire, puisqu'on est propriétaire, l'association est propriétaire de l'ISTM, à part entière.
D'accord.
Voilà ce qu'est l'OGEC.
D'accord. Donc c'est un peu l'organisme de gestion.
Absolument.
Qui gère dans l'ombre.
Oui, qui est peu connu, effectivement, très peu connu des étudiants et lycéens, un petit peu des professeurs, mais on n'a pas du tout à s'occuper de pédagogie. C'est-à-dire que les relations avec les professeurs sont des relations amicales, mais absolument pas, ça ne rentre pas du tout dans le cadre de nos responsabilités.
Bien sûr. D'accord. Et nous fêtons donc aujourd'hui les 70 ans de l'ensemble Mon Plaisir. Et pour vous, Monsieur Ponce, qu'est-ce que ça représente? En quoi est-ce que c'est un événement important?
Moi, je pense que c'est important de regarder le rétroviseur régulièrement. C'est-à-dire de regarder le passé. Même quand on a 15, 20 ans comme vous, regarder ce qu'on a fait les trois dernières années, c'est important parce que ça permet de construire l'avenir. Et donc 70 ans, regardez les 10 ans passés, parce qu'on a fêté les 60 ans il y a 10 ans, et ben, regardez ce qu'on a fait, les 8 ans de rénovation, les nouveaux projets, tous les élèves passés chez nous, ceux qui ont réussi, enfin tous ceux qui ont réussi, la majorité. Voilà, c'est important et ça invite aussi chacun finalement à relire ces 10 ans. Vous-même, peut-être pas les 10 ans, vous les 3 ans, vous êtes en terminale par exemple, mais et relire, ça aide à construire l'avenir. On a besoin de relire, puis fêter, se donner, ça permet aussi de se donner de la joie, c'est de la joie,
bien sûr.
De dire on a fait des belles choses,
tout à
plutôt
fait.
Que de pleurer, on est dans un monde où on pleure beaucoup, on a beaucoup de mauvaises nouvelles. Bah là, on se dit, c'est chouette, on a fait des belles choses, on a un bel établissement, on l'a tout rénové, on va encore faire des choses belles, on a une belle radio qui a gagné le premier prix.
Il est haut en couleur, le lycée, au final.
Voilà, il est haut en couleur. Ouais, très belle expression.
D'accord, très bien. Et pour vous, alors, Monsieur Pillet, en quoi est-ce que c'est symbolique pour vous?
Alors, pour moi, c'est un moyen de rappeler et de mémoriser l'histoire et l'évolution de l'établissement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de permettre de mettre en relation les différentes générations de professeurs et d'élèves qui sont passés par cet établissement. Et le troisième point, c'est effectivement pour marquer quand même une étape importante en matière de rénovation et de construction au niveau de la partie urbanistique. Dernier point personnel, pour moi, c'est effectivement pour approcher le point final de ma mission au terme des 30 ans, puisque dans quelques mois, pour des questions d'âge, parce qu'à la limite, s'il n'y avait pas statutairement l'obligation finalement de quitter à 75 ans, j'ai 77 ans maintenant, eh bien, je resterai peut-être. Mais là, je ne peux pas.
Bon.
Donc symboliquement, effectivement, c'est pour marquer la fin de mon passage dans ce merveilleux établissement.
Eh bien, on peut applaudir votre départ alors.
Merci.
Et donc, nous allons maintenant passer au micro-trottoir. Je vous rappelle que la question était... Pour toi, c'est quoi Mon Plaisir?
Et pour toi, Mon Plaisir, c'est quoi?
Mon Plaisir, c'est le lycée où je suis. C'est le lycée où j'apprends des choses. Et c'est un bon lycée.
Mon Plaisir, c'est un lycée où tout le monde trouve son bonheur. un lycée qui mélange plein de filières et qui est toujours dans l'avance du progrès.
C'est un lycée très prestigieux, on va dire.
Un projet et un accompagnement de jeunes.
Mon plaisir, ben, avant tout, un lieu d'apprentissage, donc un lieu aussi pour les élèves, pour se apprendre à devenir ce qu'ils sont, trouver leur voie, donc trouver un parcours unique, comme c'est notre devise.
C'est un lycée qui donne beaucoup de portes pour l'avenir.
Eh ben, c'est le boulot, mais c'est avant tout de très très bons souvenirs en tant qu'élève. Voilà.
Et une bonne école.
Le travail, les collègues, la sympathie.
Pour moi, mon plaisir, c'est un établissement donc pour le lycée où on a vécu nos bons moments, on a découvert nos amis. Et c'est aussi un moment où on apprend beaucoup de choses, que ce soit en pro ou en matière générale. Et les profs sont super cool.
Un lycée très populaire sur Valence.
Mon plaisir, c'est avant tout des personnes que l'on rencontre. Ce sont des professeurs, du personnel au GEC, des secrétaires, des personnels de service. Et c'est surtout ça, des personnes.
Mon plaisir, c'est un lycée qui est bien, qui ont des bons profs. Il y en a un peu qui sont exigeants, mais ça, c'est un peu normal, ils font leur métier. Et sinon, ouais, ça va, mon plaisir, c'est un bon lycée.
Mon plaisir, c'est le travail, mais aussi un environnement positif avec des collègues sur lesquels je peux compter.
Kiosque. Et avec une super ambiance, des super élèves et tout, vraiment.
Bleu.
Mon plaisir, que du plaisir.
Voilà. Oh, il est chaud.
Après avoir écouté ce micro-trottoir, je vous pose la question à vous. C'est quoi pour vous mon plaisir ?
Alors pour moi, je dirais d'abord, mon plaisir, c'est une communauté très accueillante et bienveillante. C'est ce qui m'a frappé la première fois que je suis venu ici, de façon incognito, je n'étais pas encore recruté. J'ai fait comme un parent d'élève, je suis venu voir. Et j'ai été accueilli par des secrétaires. Je les trouve extraordinairement accueillantes, bienveillantes. Je me renseignais pour mes fils. Voilà. Et j'avais juste après le rendez-vous de recrutement. Donc, et dès le départ, ça m'a frappé, cette bienveillance, cette communauté. Et je confirme aujourd'hui, 7 ans après, 6 ans après, qu'il y a une communauté très bienveillante, donc de profs, d'enseignants, mais aussi d'élèves, hein, parce que les élèves sont très polis, aimables. Il y a toute une ambiance qui fait que la communauté éducative, élèves, profs, salariés, bénévoles, est bienveillante. C'est le premier mot qui me vient. La deuxième chose, c'est que c'est évidemment un projet, un vrai projet, quoi. Chaque parcours est unique, mais pas que... un projet d'école professionnelle, plein de filières intéressantes, riches, qui intègrent dans le territoire. C'est qu'il y a une dynamique. Un projet, ça veut dire que ça bouge, à mon plaisir. Quoi. Mon plaisir, ça bouge. Voilà, ça, c'est important. Et puis, je dirais même, et c'est peut-être le troisième, pour moi, c'est aussi un peu une aventure que je dirais même spirituelle. C'est-à-dire qu'on sent qu'on va quelque part, à mon plaisir. Il y a une inspiration au départ, Simone Weil, portée ensuite par... toutes les communautés, et on va quelque part, ça nous dépasse, quoi. On sent qu'il y a des racines spirituelles, il y a quelque chose, on essaie de transmettre quelque chose qui nous dépasse. Donc c'est aussi une aventure spirituelle, mon plaisir. Je dirais ça aussi.
C'est beau, c'est très beau. Et vous, monsieur Pillet, pour vous, c'est quoi ?
Mon plaisir, la caractéristique, finalement, de cet établissement, celle que je ressors, que je ressens le plus, c'est effectivement la dynamique. La dynamique de projet, il y a des foisonnements de projets à tel point que par moment, on se dit il va falloir, entre guillemets, se calmer, s'arrêter. C'est arrivé à plusieurs reprises durant les 30 ans.
Vous ne comptez pas arrêter la radio, c'est bon.
Non, absolument pas. Donc cet aspect dynamique de projet dans bien des domaines, hein, ça concerne l'urbanisme, ça concerne la pédagogie, ça concerne beaucoup de choses. Ça, c'est le premier point, la dynamique. Et quand on est effectivement bénévole avec un établissement qui vit à la vitesse grand V, c'est parfaitement motivant. Premier point. Deuxièmement, c'est un établissement où, malgré le fait que je n'ai pas énormément de contact avec les élèves, je ressens directement et indirectement une certaine joie de vivre dans cet établissement. J'ai eu l'occasion de discuter notamment avec plusieurs étudiants et plusieurs lycéens. On les sent heureux. Même si, effectivement, parfois, il y a des déboires. Souvent, il faut beaucoup travailler. Il n'empêche, on les sent heureux. Et puis, c'est un établissement qui, lorsqu'on en parle à l'extérieur, il y a une image de marque, il y a une valeur, lycée mon plaisir, qui est extrêmement positive. Donc tout ça fait qu'effectivement, on peut expliquer le fait que on est motivé pour y rester. Voilà.
Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup à vous pour le temps que vous nous avez accordé. On vous souhaite une belle fin de soirée des 70 ans de mon plaisir.
Merci Valentin, merci à toute l'équipe.
Et merci à tous d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale. Un grand merci à Monsieur Noureux, professeur documentaliste qui nous a accompagnés durant ces années. Je pense qu'on peut l'applaudir.
Ouais. Parce qu'on est en train de relire. Hein. Merci.
C'était d'ailleurs la dernière émission avec cette équipe. Et oui, 3 ans ça passe vite et c'est fini.
C'est vrai.
Alors de la part de tous les membres de l'équipe qui partent, je voulais vous remercier pour ces années passées à vos côtés.
Tu que vas
vous
me soyez... faire pleurer là.
Que vous soyez auditeur ou acteur au sein de Radio Slash, merci à vous.
Merci, merci à toi Valentin.
Jérôme, ça fait 6 ans.